Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un nouveau numéro de Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassane Moubarak et dans cette émission, je reçois des historiennes et des historiens à la sortie de leur dernier livre. Aujourd'hui, mon invitée est Béatrice de Laurenti. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne médiéviste, maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous publiez « Mauvais œil, une histoire médiévale » aux éditions du Cerf. C'est en fait la version plus courte d'un livre paru dans un format universitaire chez le même éditeur l'an dernier, qui s'intitule « Fascination, une histoire intellectuelle du mauvais œil, 1140-1440 ». Donc j'ai évidemment été très intrigué par un livre qui traite du mauvais œil. Et vous montrez dans cet ouvrage que cette croyance a fait l'objet, entre le XIIIe et le XVe siècle, d'intenses débats scientifiques visant à déterminer les causes du pouvoir du regard et en donner une explication rationnelle. Ma première question, c'est comment est-ce qu'on définit le mauvais œil?
Alors, le mauvais œil, c'est un phénomène qui consiste à exercer une action nocive par le regard. Une action qui peut être exercée par des hommes ou par des animaux, sur des hommes ou sur des animaux. Il existe aussi un sens aujourd'hui plus large du mauvais œil. Quand on dit mauvais œil, parfois ça a le sens d'une poisse généralisée, une sorte de malchance. Mais le sens précis, c'est le pouvoir négatif exercé par le regard.
Et le mauvais œil est aussi appelé fascination. Alors, pareil, aujourd'hui, dans le langage courant, la fascination, c'est un peu un attrait irrésistible qui paralyse, mais il n'y a pas forcément une action négative. En tout cas, ça ne pousserait pas les gens à commettre des actions négatives. Donc, quelle est l'origine étymologique de la fascination et donc du mauvais œil?
Oui, on trouve ce sens large aussi pour fascination, mais le terme au départ est donc en latin fascinatio, qui a le sens de mauvais œil, et qui vient du grec baskaino. Grec baskaino, qui est un verbe qui désigne à la fois avoir de l'envie, être jaloux de quelqu'un, et jeter le mauvais œil. Ce terme grec baskaino a été traduit par le traducteur de la Bible, Jérôme Stridon, au IVe siècle, et il a traduit par fascinatio, en ayant conscience des deux sens, puisqu'il intéressait plutôt le sens de la jalousie, de l'envie, mais il était aussi conscient du sens ordinaire du mot fascinatio, qui a le sens de mauvais œil.
Je voulais aussi commencer par une question méthodologique, parce que les sources que vous traitez, que vous utilisez, sont extrêmement nombreuses, mais en fait elles sont assez parcellaires aussi, c'est-à-dire que ce qui a trait au mauvais œil dans les ouvrages que vous avez consultés, parfois ne fait que quelques lignes, au milieu d'un ouvrage de plusieurs centaines de pages. Le travail me paraît colossal, je voulais savoir comment vous vous y êtes prise pour retrouver toutes ces références qui ont trait au mauvais œil. Est-ce que vous avez relu tous ces manuscrits et relevé ensuite le mauvais œil là-dedans? Est-ce que vous avez pu faire des recherches en texte intégral sur des bases numérisées? Comment vous avez procédé?
Oui, c'était un gros enjeu d'arriver à rassembler des textes sur la fascination, surtout que le terme fascinatio a aussi ce sens large. Moi, je voulais des textes qui parlent de la fascination au sens du pouvoir du regard. Et par ailleurs, parfois, les auteurs parlent de fascination sans utiliser le mot. Donc, on a à la fois des textes qui parlent de fascination sans le nommer et des textes qu'ils nomment en parlant d'autre chose. Du coup, ça rendait les choses compliquées. Mais j'ai choisi un fil conducteur et c'était la façon d'arriver à avoir des textes. Le fil conducteur, on va en parler après, mais c'est une doctrine d'Avicenne qui interprète la fascination et que j'ai cherché dans les textes doctrinaux. Alors, il y a des outils, effectivement. Il y a un index formidable qui a été élaboré par un chercheur qui s'appelle Dag Haas, qui a travaillé sur la réception d'Avicenne en Occident, dans le monde latin. Et cet index recense tous les passages au XIIIe siècle des traités sur l'âme dans lesquels il est question des différentes thèses d'Avicenne. Donc ça me donnait un premier corpus, c'était pour le XIIIe siècle. Ensuite, pour le XIVe siècle, j'ai fait d'autres moyens aussi. Je suis allée voir dans les index lorsque les textes sont édités pour trouver des références à la fascination. Dans les index d'un ouvrage qui est formidable aussi de Thorndike sur l'histoire de la magie, qui donne des index qui permet de retrouver des textes. Et ensuite, je suis aussi allée voir des textes que j'avais déjà étudiés et qui étaient ma première approche, mais qui n'étaient pas très nombreux en fait, qui étaient ma première approche sur la question.
Voilà. Vous l'avez dit, donc cette croyance du mauvais œil s'immisce dans les débats au Moyen-Âge, principalement suite à la réception des travaux d'Avicenne. Avicenne qui était donc un philosophe et un médecin persan du Xe et XIe siècle. Il est l'auteur d'une encyclopédie de la médecine, le canon de la médecine, et d'une encyclopédie de philosophie, le livre des guérisons de l'âme, dans lequel on trouve les références sur le mauvais œil. Pour commencer, est-ce qu'on peut rappeler comment et quand les travaux d'Avicenne circulent en Europe occidentale?
Oui, alors Avicenne est traduit, donc il écrit en arabe, c'est un auteur persan mais il écrit en arabe, et il est traduit par un cercle de traducteurs à Tolède, dans la deuxième moitié du XIIe siècle, qui travaille sous le patronage de l'archevêque de la ville. C'est un programme de traduction de l'arabe qui est mis en œuvre par ces auteurs pour combler les manques dans les textes scientifiques. Donc ils traduisent Aristote, ils traduisent les commentateurs d'Aristote et aussi d'autres textes originaux, comme l'encyclopédie d'Avicenne. Elle est traduite dans ce cadre-là par deux personnes qui travaillent ensemble, Dominique Gundisalinus et Abraham Ibn Daoud, qui travaillent donc ensemble sur cette première traduction. Le deuxième texte que j'utilise comme fil conducteur, qui est un texte d'Al-Ghazal qui résume en fait les positions d'Avicenne, est traduit au même moment par les mêmes traducteurs, enfin, à peu près par le même cercle de traducteurs en fait. Voilà, donc c'est sans ce milieu très, très dynamique, parlant l'arabe et formé à la philosophie grecque qu'Avicenne est traduit en latin.
Et au moment où ces travaux pénètrent en Europe, il rencontre un monde qui est déjà empreint d'une culture biblique et antique et qui parle aussi du mauvais œil. Par exemple, dans la Bible et dans les travaux d'exégèse de la Bible, quelles références on trouve concernant le mauvais œil ?
Oui, c'est ça. Le mauvais œil arrivé par Avicenne n'est pas une nouveauté. C'est un phénomène qui est connu déjà par les auteurs, par des autorités qui sont importantes pour eux. Donc d'abord la Bible, on trouve plusieurs versets dans la Bible qui parlent du pouvoir du regard. Mais les termes fascinatio dans la Bible, la Vulgate, la Bible en latin, n'apparaissent que deux fois. Une fois dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Sagesse, où on a cette expression « la fascination pour la frivolité obscurcit le bien ». Et cette expression-là, c'est le terme fascinatio est employé dans le sens d'envie, de jalousie. Et l'autre allusion dans la Bible, c'est dans l'Épître aux Galates. Et là, c'est un passage qui a eu une importance très grande dans les discussions médiévales. C'est un passage dans lequel l'apôtre Paul interpelle le peuple des Galates, anciennement convertis mais qui sont retournés, qui ont délaissé la foi chrétienne, et leur dit « Ô Galates insensés, qui vous a fasciné ?» Donc vous avez le verbe « fasciné » traduit par Jérôme « fascinare ». Cette expression des Galates a vraiment eu une portée, elle a introduit des discussions grâce aux commentaires qu'en faisait le traducteur Jérôme Stridon dans son commentaire de l'Épître aux Galates. Elle a introduit la problématique de la fascination avec plusieurs thématiques chez Jérôme quand il commente ce verset. Il souligne le fait que la fascination, c'est quelque chose qui touche les enfants, d'abord les petits-enfants. Il évoque aussi le fait qu'elle peut être exercée par les démons, mais pas nécessairement. Et puis, il parle du fait qu'il s'agit, il y a un sens ordinaire au mot fascination, qui désigne donc le mauvais œil nuisant aux enfants.
Et de même, on trouve aussi des références au mauvais œil dans la littérature antique, et en particulier Aristote, hein, au IVe siècle avant Jésus-Christ. On sait en plus que Avicenne, sur d'autres sujets, a commenté les travaux d'Aristote et s'est positionné par rapport à eux. Donc, dans la logique d'Aristote, qu'est-ce qu'on trouve sur le mauvais œil ?
Chez Aristote, on trouve une petite anecdote expliqué par Aristote dans son traité du sommeil et de la veille, dans lequel il évoque le fait que la femme, lorsqu'elle a ses règles, si elle regarde un miroir, projette sur le miroir un nuage de sang. Et Aristote l'explique par les émanations nocives qui sont liées à la menstruation, qui, d'après Aristote, a un effet négatif sur le corps de la femme et qui entraîne donc des émanations par les yeux qui vont tacher le miroir. Donc ça, c'est une anecdote qui fait partie des exemples qui sont utilisés par les auteurs médiévaux pour comprendre ce qu'est le mauvais œil. Le texte d'Aristote en question est traduit par Guillaume de Merbeck à la fin du XIIe siècle et il est ensuite commenté. Il y a aussi deux textes, vous avez parlé de la littérature antique. Les auteurs utilisent des récits qui proviennent de poètes classiques comme Ovide ou Virgile. Également des récits qui viennent de naturalistes païens, comme Pline l'Ancien ou bien Solin, et aussi des naturalistes des encyclopédistes chrétiens de l'Antiquité tardive, comme Ambroise de Milan ou du Haut Moyen-Âge, Ambroise de Milan et Isidore de Séville. Donc ça fait toute une série, un réseau de récits autour du mauvais œil. Plusieurs exemples en fait sont évoqués autour du mauvais œil, notamment le serpent basilique, qui est le serpent qui tue par le regard, qui a vraiment une postérité très longue dans les discussions, qui apparaît dans les encyclopédies médiévales comme un exemple de pouvoir du regard. Il y a aussi l'exemple du loup, qui revient très souvent. Le loup qui rend muet celui qui le regarde en premier. Dans le cas du loup, c'est un peu particulier parce qu'il y a une direction dans le regard. Si le loup regarde l'homme en premier, l'homme devient muet. Dans le sens inverse, ce n'est pas le cas. C'est aussi un récit qui revient notamment chez Pline et qui est très régulièrement cité comme exemple de mauvais œil.
Et on va voir, Avicenne donne d'autres exemples, oui, qui ne sont pas forcément animaux. Et donc, venons-en à la pensée d'Avicenne. Il parle, alors non pas du mauvais œil, évidemment, ça c'est un peu du langage courant, mais sa doctrine, c'est celle du pouvoir de l'âme en dehors du corps. Et on trouve ça dans son traité de l'âme, livre 4, chapitre 4. Est-ce que vous pouvez nous guider un peu, alors brièvement, parce que c'est très très bien expliqué dans le livre, mais sur sa doctrine, c'est-à-dire comment il conçoit, Avicenne, les liens entre l'âme et le corps?
Oui, alors Avicenne pense que l'âme et le corps sont liés, très intimement liés, et que l'âme peut agir sur le corps directement, sans contact, de manière immédiate. Dans plusieurs exemples de relations, d'effets psychosomatiques, il donne deux exemples caractéristiques, qui est l'exemple de la peur du vide. Par exemple, une personne qui arrive très bien à marcher sur une poutre posée sur le sol, mais lorsque la poutre est posée au-dessus d'un précipice, elle n'y arrive plus. Et Avicenne explique que c'est l'imagination qui joue un rôle dans ce cas. La forme imprimée dans l'imagination commande aux jambes et empêche à l'homme de marcher. Ça, c'est un premier exemple. Et l'autre exemple très connu, c'est l'exemple de la confiance du malade. Le malade, lorsqu'il a confiance dans son médecin, guérit plus vite grâce à cette confiance, grâce à, de la même façon, à son imagination qui agit sur son corps. Et Avicenne dit là encore que cette confiance agit de manière plus efficace que le médecin avec ses instruments, donc le chirurgien. Donc ça, c'est le postulat de base. On n'est pas encore dans l'idée de mauvais œil, puisqu'il s'agit d'une action interne de l'âme sur le corps propre. Mais Avicenne va plus loin et il considère que l'âme peut également, dans certaines situations, agir au-delà des limites du corps, sur d'autres corps ou sur le monde extérieur. C'est là que sa doctrine est originale et c'est là, en fait, qu'elle suscite des discussions, qu'elle pose des difficultés. L'âme peut agir au-delà du corps dans deux situations, autour de deux figures en fait. D'une part, une figure positive, qui est la figure du prophète, qui a une âme très pure, très élevée, dégagée des contraintes matérielles et qui par conséquent peut agir sur le monde en lui faisant du bien, en guérissant les malades, en provoquant des pluies, etc., etc. Avicenne donne plusieurs exemples de l'action bénéfique du prophète par son âme. Et ensuite, en échange, en symétrie, on pourrait dire, il y a l'action du fascinateur qui, lui, agit de façon nocive, dont l'âme est mauvaise. Et l'âme agit par le regard, uniquement sur les hommes, pas sur le monde entier, pas sur la nature, mais sur les êtres humains. Et donc c'est là où Avicenne parle de fascination.
Est-ce que ces deux côtés, donc le côté sombre, finalement la fascination, et le côté positif, le prophète, peuvent se voir chez une même personne? Et sinon, est-ce qu'il y a une différence de puissance entre les deux? Est-ce que l'un l'emporte sur l'autre?
Non, c'est pas une même personne, c'est justement des profils complètement différents. Le prophète, c'est quelqu'un donc d'élevé, avec une âme pure, dégagée des contraintes, alors que le fascinateur, c'est l'inverse, c'est quelqu'un qui est envieux et dont l'âme est vraiment empreinte de mauvaises intentions. La force n'est pas la même non plus, d'après Avicenne, mais alors ces éléments de précision se trouvent dans les textes d'Avicenne qui n'ont pas été traduits en latin, donc n'ont pas été forcément connus des auteurs médiévaux latins lorsqu'ils ont commenté à Avicenne. Ils avaient des choses très, très courtes sur ce sujet. Mais dans les autres textes d'Avicenne, il explique que le fascinateur agit sur une personne ou un animal, mais ne peut pas agir sur les éléments, alors que le prophète, lui, peut agir sur les éléments.
Et par quel moyen, selon Avicenne, l'âme agit sur le corps d'autrui? Est-ce qu'il faut un contact? Et de quelle nature est-il?
Non, justement. Alors, c'est une action qui est comparable à l'action de l'âme sur son propre corps. C'est donc une action immédiate et sans contact. Pour Avicenne, c'est une action spirituelle. Donc, c'est vraiment une doctrine de l'action psychique à distance. Même s'il ne parle pas de distance, ce n'est pas son problème, mais on a une action qui est immédiate et sans contact, exactement parallèle aux effets psychosomatiques. Après, Avicenne a un modèle métaphysique à l'arrière-plan pour expliquer. Il fait une sorte de comparaison entre le macrocosme et le microcosme. Il a un modèle qui s'appelle le modèle du donateur formarum, le donateur de forme, qui est l'idée d'une... Le donateur de forme, c'est un principe supérieur, une intelligence supérieure séparée de la matière. Dans la métaphysique d'Avicenne, il y a plusieurs intelligences séparées de la matière. Et cette intelligence a pour rôle de donner ses formes au monde et aux âmes, à la matière terrestre et à l'âme humaine. Donc c'est une intelligence, un principe spirituel qui agit sur la matière. Et cette idée métaphysique sert de modèle pour penser le pouvoir de l'âme sur le corps, selon un principe de comparaison entre
qui serait en fait le à grand monde et le petit monde,
quoi, voilà. le macrocosme et le microcosme. Donc l'âme elle-même agit de la même façon, immédiatement, sans contact sur son propre corps, que le donateur de forme sur le monde.
Vous avez cité tout à l'heure un second auteur, traduit de l'arabe au latin, qui lui aussi parle de la doctrine du pouvoir de l'âme en dehors du corps. C'est Al-Ghazal. Donc, dans ses écrits, il reprend les principaux points de la position d'Avicenne. Qu'est-ce qu'il apporte en plus ?
Oui, Al-Ghazal, c'est son nom latinisé.
Comme Avicenne et
oui,
Ibn Sina.
C'est ça. il écrit un peu après Avicenne, une soixantaine d'années après. Il résume son œuvre avec une position qui vise surtout à combattre certains aspects de l'œuvre d'Avicenne, tout en étant très imprégné de l'œuvre d'Avicenne. Mais dans la traduction latine, seule une partie de son œuvre est traduite, et c'est la partie résumée. Donc les auteurs latins le perçoivent comme un collègue d'Avicenne. Ce qu'il introduit en plus, c'est d'abord des décalages dans le vocabulaire. Il parle de miracle à propos du pouvoir de l'âme en dehors du corps, un terme qui est par ailleurs chez Avicenne dans la version arabe, mais qui n'est pas traduit en latin. Donc c'est un premier déplacement, un déplacement de la prophétie au miracle, qui est important pour des auteurs latins chrétiens. Alors dans le monde d'Al-Ghazal ou d'Avicenne, la notion de miracle a un sens très général de ce qui est extraordinaire. Mais dans le monde chrétien, elle a un sens beaucoup plus précis au moment où est traduit ce texte. C'est un moment de spécialisation du vocabulaire autour du miracle, avec une distinction entre le merveilleux et le miracle. Le miracle, c'est ce qui a une origine divine, alors que le merveilleux, c'est un prodige inexpliqué, mais qui pourrait s'expliquer par la nature. Donc cette introduction du miracle pour qualifier l'action de l'âme en dehors du corps a pu paraître choquante pour les auteurs chrétiens et susciter des réactions négatives. Par ailleurs, Al-Ghazal introduit aussi, il a en fait une façon de résumer en ajoutant des exemples pour rendre les choses plus claires, plus compréhensibles. Donc il introduit un exemple qui a une grande importance ensuite dans les discussions, c'est l'exemple de la chute du chameau. Dans la version latine d'Al-Ghazal, on trouve cette phrase « L'œil envoie l'homme dans un trou et le chameau dans une étuve ». Alors c'est une phrase un peu bizarre que les auteurs latins ont reçue comme ça sans très bien comprendre ce que ça voulait dire et qui les a amenés à développer des explications. Mais en fait, chez Al-Ghazal, il s'agit de la citation d'un hadith, c'est-à-dire une sentence qui rapporte les actes et les paroles du prophète. Donc dans la religion musulmane, Al-Ghazal est musulman. Le hadith dit ceci, « Le mauvais œil peut conduire un homme dans son tombeau et un chameau dans la marmite ». Ce hadith en arabe a été traduit de façon sans doute un peu maladroite par le traducteur latin, en choisissant le terme latin fossa pour désigner ce qui n'est pas un trou, mais un tombeau, et en choisissant le terme caldarium pour désigner ce qui n'est pas une étuve de bain, mais une marmite. Par conséquent, cet exemple du chameau qui était très parlant est devenu quelque chose d'un peu étrange pour les auteurs latins, qui les a fait discuter, qui est vraiment très souvent cité, mais avec des décalages. Parfois, le chameau devient une mule. Parfois, le chameau tombe dans un trou et pas dans une étuve. Donc, on sent bien qu'il y a quelque chose qui bloque ici.
Oui, c'est assez drôle parce que finalement, ça part d'une erreur de traduction initiale. Et puis après, les gens discutent sur ça. Un peu comme voilà, jeter le chameau avec l'eau du bain. Quoi. Et donc, en fait, c'est à partir de ces propositions d'Avicenne et d'Al-Ghazal, donc sur un fond d'écrit culturel, religieux, antique, que va s'enclencher la discussion sur le mauvais œil au XIIIe siècle, vous montrez que cette discussion, elle reste essentiellement théorique. C'est-à-dire que les auteurs qui écrivent sur ça ne rapportent pas d'expérience personnelle du mauvais œil. On n'a aucun moyen vraiment de savoir s'ils y croyaient eux-mêmes.
Non, c'est très difficile et c'est une des choses que j'ai découvertes en travaillant là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup d'exemples dans les textes, mais les exemples sont des citations antiques. Alors ça tient à plusieurs choses. Ça tient d'abord à une façon de réfléchir des auteurs médiévaux qui considèrent que les textes faisant autorité ont plus d'importance que les faits observés. Donc ils citent les textes faisant autorité. Mais quand même, j'ai cherché, et de fait, on ne trouve pas de pratiques réellement citées directement. Donc c'était une vraie question. Alors d'abord, ce que vous me dites sur la croyance, effectivement, c'est très difficile de savoir s'ils croyaient, mais de manière générale, la croyance est toujours supposée, imputée à quelqu'un. C'est une opération extérieure. Et de fait, le plus souvent, la croyance est imputée de l'extérieur, mais elle n'est pas revendiquée comme telle. C'est ce que font les auteurs médiévaux, c'est-à-dire que ce sont des savants. Ils discutent d'un phénomène qu'ils ont observé, mais leur problème n'est pas de savoir s'ils y croient ou non. Leur problème, c'est de savoir comment expliquer cette chose qu'ils ont observée. Quand je dis qu'ils ont observé, ils en ont une expérience textuelle, c'est-à-dire qu'ils l'ont observée dans des textes auxquels ils font confiance, les textes de Pline, les textes d'Aristote. Par conséquent, leur problème n'est pas d'y croire, et sans doute que... C'est, en tout cas, la pratique ne les concerne pas directement. Leur problème est de comprendre comment se fasse ce phénomène. On trouve quand même quelques doutes sur la croyance, mais très rarement, au tout début des discussions, peut-être avant que le sujet devienne vraiment une sorte de lieu commun. Un des premiers auteurs qui évoque la fascination à partir d'Avicenne, c'est Robert Grosstead, qui est un théologien anglais dans les années 1230. Et lui dit... Il n'est pas facile pour moi de dire si la fascination est quelque chose ou pas. Donc il a quand même une façon, mais sans du tout fermer la porte.
Il a un petit doute, mais...
Il a un doute, ou du moins il ne veut pas se prononcer. On trouve encore une fois un doute dans un texte qui cette fois condamne la fascination, les erreurs des philosophes dans la fin du XIIIe siècle. Ce sont les deux seules occurrences où on a une sorte d'accroche sur la possibilité qu'il y ait quelque chose de faux dans ce phénomène. Il ne s'agit pas d'une croyance pour ces auteurs, il s'agit d'un phénomène naturel et il faut trouver une explication. Puisqu'il existe, il faut l'expliquer.
Et ces croyances, donc, on les trouve dans des écrits philosophiques, religieux, théologiques. Est-ce qu'on les trouve dans d'autres types de sources ? Alors, des romans, par exemple, des poésies, ou alors même dans des objets archéologiques, des représentations iconographiques, enfin, des choses qui laisseraient croire que cette croyance au mauvais œil est quand même quelque chose de répandu dans la société et pas simplement le fait de quelques savants qui en discutent.
Oui, alors, c'est pas quelques savants, hein, c'est 70 auteurs, ça fait un peu plus que quelques savants. Mais de fait, je suis persuadée que la pratique de la croyance dans le mauvais œil existait. Et mon propos n'est pas du tout de minimiser la croyance, mais plutôt de remarquer qu'elle n'a pas laissé de traces explicites dans les sources. Et ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. D'abord, le mauvais œil est quelque chose qui n'est pas perceptible. Le regard est quelque chose qui n'est pas perceptible. Il n'y a pas de rituel, pas de geste, pas de parole. Donc c'est quelque chose qui n'est pas ritualisé, qui ne laisse pas de traces, pas d'artifice. Ça, c'est un premier élément qui fait qu'il n'y a pas de pratique de mauvais œil. Il y a des pratiques de réaction au mauvais œil, mais des pratiques consistant à jeter le mauvais œil, non. Le plus souvent, on le sait par des études anthropologiques sur d'autres périodes, le mauvais œil est dénoncé après coup. Donc de fait, il ne laisse pas de traces. Ça, c'est un premier élément. On sait dans d'autres études anthropologiques sur d'autres périodes que certains objets peuvent être utilisés pour se protéger du mauvais œil. Par exemple, un pendentif en corail, par exemple, qui est utilisé à d'autres périodes. Or, on trouve, par exemple, dans les peintures médiévales, des représentations de la Vierge à l'enfant dans lesquelles l'enfant a un pendentif en corail. Donc on pourrait supposer qu'il s'agit d'une mesure de protection contre le mauvais œil. Le problème, c'est qu'on n'a aucune trace de commentaire sur ce pendentif en corail. Et si je vous donne cet exemple-là, parce qu'il y a beaucoup d'autres exemples, c'est que le corail est utilisé dans d'autres contextes que le mauvais œil. Un médecin chirurgien comme Henri de Mondeville, au début du XIVe siècle, raconte qu'il a utilisé un morceau de corail pour un patient qui souffrait d'un violent mal de ventre. Il l'a posé sur son estomac, le mal s'est arrêté, et en l'enlevant, le mal est revenu. Donc c'est un exemple d'une utilisation thérapeutique du corail dans lequel il n'y a aucune allusion, même dans un texte doctrinal, à la fascination, il ne s'agit pas de ça. Par conséquent, il est vraiment compliqué pour l'historien de savoir... ce qui est légitime de considérer comme trace du mauvais œil ou non, en l'absence de commentaires. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas existé, mais qu'on n'a pas vraiment, il est très difficile de ne pas surinterpréter, ce qui est parfois fait justement à propos du mauvais œil. Et autant la croyance n'est pas perceptible, autant les pratiques sont sans doute là, mais n'ont pas laissé de trace non plus, donc c'est une situation difficile. Pour la littérature, juste vous parler de la littérature, j'ai pas enquêté sur les textes de fiction de manière systématique, mais ça a été fait pour la littérature celtique par une chercheuse qui s'appelle Jacqueline Borges, qui a fait un travail remarquable sur le mauvais œil dans la littérature celtique, dans lequel elle montre qu'il n'y a pas de description élaborée du fait de jeter le mauvais œil. On trouve juste des indices d'un regard qui est évoqué dans certains textes littéraires avec une émotion qui l'accompagne. Et elle reconstruit, parce qu'elle connaît très très bien l'ensemble du corpus, des allusions possibles au mauvais œil. Et d'après Jacqueline Borch, ce mauvais œil reste tabou et c'est pour cette raison, d'après elle, qu'il n'est pas exprimé explicitement dans des textes littéraires. Je pense que selon les types de corpus, il y a des raisons différentes qui font que ce phénomène, cette croyance n'ont pas laissé de traces. Mais de fait, on ne trouve pas de traces de...
En tout cas, c'est dans les années 1230 que les premières mentions des idées d'Avicenne sur le mauvais œil apparaissent dans les relevés. Et alors, comment se fait cette réception en ce milieu du XIIIe siècle? J'ai eu l'impression, en vous lisant, qu'au départ, il y a les gens qui acceptent en bloc qui rejettent en bloc. Et puis après, la nuance arrive.
Je dirais qu'après, la discussion critique arrive. Dans un premier temps, il y a certains rejets, mais sans argumentation, rejets directs, ou bien des personnes qui citent Avicenne sans chercher tellement à discuter. C'est, à mon avis, c'est une histoire de temps de réception. Mmh. On est dans un premier temps de la réception dans lequel la doctrine d'Avicenne, mais l'ensemble de la doctrine d'Avicenne, commence tout juste à être assimilée. Donc on n'est pas encore dans le moment de la prise de position critique. Ça se fait dans un deuxième temps, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle plutôt.
Et donc dans ces premiers temps, pourquoi des gens rejettent alors en bloc finalement, sans discuter, les positions d'Avicenne? Oui. Puisque vous montrez que pour eux, la fascination était un phénomène connu, ça n'est pas quelque chose d'irrationnel, d'incompréhensible. Alors pourquoi est-ce que certains disent, bon, en gros, on écarte ça d'emblée? Oui. Et comment ils font pour l'écarter?
Alors ce qui dérange, ce n'est pas effectivement l'existence de la fascination, c'est l'interprétation qu'on donne à Avicenne, sa doctrine du pouvoir de l'âme en dehors du corps. Et ce qui gêne, il y a plusieurs arguments, mais un des arguments d'un des premiers auteurs qui rejette en bloc, ils ne sont pas très nombreux, hein, c'est Pierre d'Espagne, lui refuse qu'on propose ainsi de naturaliser les miracles. Donc c'est un argument chrétien, l'idée que ce que dit Avicenne, c'est une position païenne qui consisterait à expliquer de manière naturelle un miracle. On trouve d'autres arguments, par exemple, dans un deuxième texte un petit peu plus tardif, Les erreurs des philosophes, l'argument c'est le refus de que l'âme puisse aller au-delà de son corps. L'argument n'est pas étayé en fait, mais l'idée qui gêne, c'est ça, l'idée que l'âme humaine ne doit pas aller au-delà de ce qu'elle est capable de faire. L'homme a des limites et qu'il ne doit pas outrepasser ses limites. Et enfin, un troisième reproche qu'on trouve, cette fois en 1277, dans un acte important de censure doctrinale sur différentes sortes de censure, qui touche aussi la doctrine d'Avicenne, sans parler de fascination, mais qui touche quand même la doctrine d'Avicenne. Cette fois, ce qui dérange, c'est le risque porté au libre arbitre humain, qui est important dans la théologie chrétienne. L'idée qu'un homme pourrait tuer un autre ou un animal directement, va à l'encontre du libre arbitre et une forme de déterminisme. Donc ce sont des arguments théologiques et philosophiques liés à la doctrine chrétienne, les arguments qui rejettent Avicenne. Ils rejettent plus Avicenne que la fascination en fait.
Je reviens sur cette date de 1277 et la condamnation. Donc effectivement, c'est l'évêque de Paris, Étienne Tempier, qui émet en 1277 une liste de 219 propositions qui sont considérées comme erronées pour les maîtres et les étudiants, pour qu'ils ne soient plus enseignés ou soutenus, sous peine d'excommunication. Qu'est-ce qu'on reproche à cette doctrine, finalement, du point de vue religieux? Et est-ce que cette censure est efficace?
Alors la censure de 1277 porte sur un très grand nombre, il y a 219 propositions.
Et deux seulement qui ont trait plus ou moins directement à la fascination, c'est ça?
Alors elles ont trait à la doctrine d'Avicenne, le mot fascination n'y est pas. Ce qui est reproché, c'est ce que je disais, c'est-à-dire le libre arbitre, le fait que une substance spirituelle comme l'âme puisse agir sur une substance matérielle directement. Après, il est très difficile de savoir l'effet de ces condamnations. Disons que ça dépend des domaines. Ces condamnations il s'agit de l'acte de condamnation doctrinale, l'un des plus importants pour le Moyen-Âge, qui est aussi le plus étudié. Donc c'est une sorte de passage obligé pour un médiéviste à un moment de lire des études des condamnations de 1277. Mais les positions sur l'influence de ces condamnations diffèrent en fonction des types de condamnations. Dans certains cas, il y a eu une forte influence. Par exemple, on considère que peut-être que ces condamnations auraient entraîné l'abandon de certains efforts de traduction d'Avicenne pour certaines œuvres. Dans d'autres cas, on a considéré au contraire que c'était une impulsion à l'innovation, à la créativité scientifique, l'idée d'interdire quelque chose qui avait au contraire entraîné un regain d'innovation. Bon, pour la fascination, en fait, c'est assez décevant dans le sens où, en fait, ça n'a eu très peu d'effet. Pas de fonction stigmatisante de ces condamnations qui sont citées quelquefois au XIVe siècle, mais pas de façon régulière. Et même lorsqu'elles sont citées, ça n'empêche pas les auteurs de discuter de la doctrine avicenne.
Dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, on voit donc des gens qui discutent, qui nuancent, qui adaptent le propos. Il m'a semblé, en tout cas, que la plupart de ces auteurs du XIIIe siècle venaient de l'Université de Paris. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste une impression? Et si c'est oui, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est lié aux sources que vous avez consultées? Ou est-ce qu'il y a une raison pour que Paris soit le centre de cette discussion?
Oui, c'est vrai, Paris n'est pas le seul lieu de discussion, mais c'est vrai qu'à Paris, on trouve une partie des auteurs, et une sorte que c'est un lieu où se concrétise l'habitude collective de discuter du mauvais œil et du pouvoir de l'âme en dehors du corps. Alors je pense qu'il y a deux raisons principales à ce lieu. Je pense pas que ce soit un effet de source. Bon, évidemment, je suis tributaire des sources qui restent, mais j'ai vraiment cherché à repérer le maximum de sources. Donc c'est pas les sources que j'ai choisies qui m'induisent à dire cela. En revanche, il y a une raison matérielle et une raison intellectuelle ou doctrinale. La raison matérielle, c'est qu'à Paris, c'est un lieu avec beaucoup de copistes, où circulent beaucoup de manuscrits, et notamment beaucoup de manuscrits d'Avicenne. Dans les traductions d'Avicenne, les manuscrits latins d'Avicenne qui sont conservés aujourd'hui, beaucoup sont conservés à Paris. Par ailleurs, à Paris, les traductions d'Avicenne sont rassemblées en recueil pour être plus facilement consultables. Donc c'est vraiment un lieu où on a accès facilement aux textes d'Avicenne. Ça, c'est une première raison. Et enfin, il y a la deuxième raison, c'est une raison donc plus doctrinale qui est liée à la concentration de maîtres et d'étudiants à Paris, qui fait que à l'attractivité aussi de l'université parisienne à différentes époques, parce que c'est vrai qu'on trouve ce rôle de Paris à la fois dans les années 1230 et après dans les années 1270. Donc il y a un certain dynamisme intellectuel. Paris est le lieu de rencontres autour de discussions, autour d'Aristote, autour d'Avicenne. Et par conséquent, c'est surtout là qu'on trouve des auteurs importants. Mais pas seulement, hein. Tout de même, il y a aussi Oxford, Toulouse, enfin d'autres pôles. Mais c'est vrai que Paris est un pôle important.
L'un des points les plus discutés, c'est celui de la nature de l'action de l'âme sur le corps. Donc l'âme du fascinateur sur le corps extérieur, on parle de mauvais œil et donc ça implique la vision. Et d'ailleurs, c'est notable parce que initialement, le mécanisme de la vision, c'était l'extramission, c'est-à-dire que l'œil qui regarde envoie un rayon pour voir l'objet en question. Et ensuite, aux mêmes époques, dans les années 1270, dans le monde latin, apparaît le deuxième mécanisme qui est celui de l'intramission, c'est-à-dire que c'est l'objet qui est regardé qui envoie un rayon. Ce changement est notable parce que la question qui se pose, c'est quel intermédiaire faut-il entre les deux, entre l'âme qui a ce pouvoir et le corps qui est le récipient finalement du pouvoir. Quels sont les différents candidats pour ce message, cet ordre qui est envoyé ou reçu?
Oui, alors pour ce qui est de l'optique, effectivement, le XIIIe siècle, c'est le moment où l'Occident passe d'une théorie active de la vision à une théorie passive. Alors on pourrait supposer que ça ne permet plus d'expliquer le mauvais œil. De fait, dans l'Antiquité ou au XVIe siècle, le mauvais œil a beaucoup été expliqué à partir de théories optiques. Mais ce que j'ai cherché à montrer dans ce livre, c'est que pour les auteurs médiévaux, l'optique n'est pas l'enjeu principal. Disons que l'argument par les rayons n'est pas un argument dominant, ce qui va à l'encontre de ce qui a parfois été dit pour l'époque médiévale. La plupart des interprétations ne s'intéressent pas aux rayons du regard, mais cherchent à expliquer autrement l'action du fascinateur sur le fasciné. Elles cherchent à expliquer en comblant, comme vous le disiez, cet espace. Il y a un espace vide, enfin un espace entre l'un et l'autre, il n'y a pas de contact, et c'est ça qui pose problème. Alors, je crois qu'il faut expliquer un petit peu ce qui pose problème aux auteurs médiévaux. Ce sont des philosophes qui ont lu Aristote. Et ce qui leur pose problème, c'est la position d'Aristote qui est leur modèle, qui est la position de l'action naturelle comme action par contact. L'idée que toute action naturelle implique une contiguïté entre un moteur et un mu. Il y a un contact physique entre les deux. Alors, évidemment, dans la fascination, c'est une difficulté sur laquelle ils butent. Et la plupart des propositions visent à adapter cette idée de contact, soit en réintégrant du contact entre le fascinateur et le fasciné, en le réintégrant de diverses façons. Par exemple, le contact peut être réintégré en considérant qu'il y a des émanations du corps qui partent, sortent par les yeux, des émanations nocives, et qui vont atteindre physiquement le corps du fasciné. Dans ces cas-là, l'explication devient physiologique. C'est une explication d'un corps malade qui va atteindre un autre corps malade. Et d'ailleurs, le mauvais œil sert de lieu de réflexion pour déterminer comment se transmettent les maladies. Donc, il est pensé comme une forme de maladie qui se transmettrait d'une personne à l'autre. Alors, ce n'est pas forcément des émanations, ça peut être d'autres formes d'éléments qui permettent d'assurer le contact. Il y a par exemple l'idée d'une qualité. Donc, cette fois, ce n'est pas quelque chose qui se transmet, mais une qualité qui est donnée à l'air. L'air devient corrompu et lui-même transmet ensuite cette qualité à la victime. Donc, on a plusieurs sortes d'explications qui sont vraiment avec cette idée qu'il faut trouver une explication naturelle à un phénomène qui est naturel et qu'il n'est pas possible de déroger à cette idée de contact.
Et pour ceux qui ne rejoignent pas cette explication naturelle, naturaliste, l'autre explication, c'est l'existence de démons.
Oui, il y a aussi l'existence de démons. Alors, elle est en fait beaucoup moins présente dans les textes. Ce sont des textes dont l'objectif est de réfléchir au monde naturel avec des arguments naturalistes. Mais le démon vient aussi, parfois, en plus. Ce qui est intéressant, c'est que le démon n'est pas exclusif. L'interprétation par le démon qu'on trouvait dans le commentaire de Jérôme sur les Galates et qu'on trouve ensuite chez beaucoup de théologiens est une possibilité parmi d'autres. Donc, par exemple, Thomas d'Aquin explique le pouvoir de Thomas d'Aquin, dominicain de la deuxième moitié du XIIIe siècle, explique le pouvoir du regard par l'idée d'altération intermédiaire. Ça, c'est sa première explication. Donc, l'idée de contact, que l'œil envoie une altération à l'air qui va se répliquer successivement jusqu'à atteindre l'enfant. Mais il explique aussi, il propose aussi en chapeau l'interprétation démoniaque selon laquelle le démon agirait directement à travers le fascinateur pour agir sur le fasciné. L'un et l'autre ne sont pas contradictoires, en fait. Ce sont comme une sorte de gamme de possibilités d'interprétation.
Dans la dualité fascination-prophète, on voit que c'est le mauvais œil, donc le côté négatif, qui occupe la majorité des discussions. Comment est-ce que vous expliquez cela, que le côté positif, l'œil du prophète, soit pas mal occulté?
En fait, le prophète n'agit pas par son œil. Il agit par son âme, mais il n'y a pas de regard qui est en jeu dans le prophète. Donc on n'a pas tout à fait un parallélisme total. Donc le prophète est discuté par ailleurs. Le pouvoir de l'âme positive est discuté. Par exemple, les médecins s'intéressent au pouvoir de l'âme sur le corps propre. Ils s'intéressent aux mouvements psychosomatiques. Donc ce qui les intéresse, c'est... On ne peut pas dire que le pouvoir de l'âme positive ne soit pas discuté, mais de fait, il n'y a pas un parallélisme complet. Et lorsqu'il s'agit de fascination, c'est, comme vous le dites, toujours négatif.
On voit dans le livre que l'acmé des discussions a lieu au XIIIe siècle et qu'ensuite, il y a une petite part qui est consacrée au XIVe et XVe siècle. Et je me suis demandé pourquoi. Est-ce que finalement, tout a été un peu dit au XIIIe siècle, une position un peu moyenne, acceptable a été trouvée et puis finalement, on passe à d'autres sujets?
Il y a une certaine standardisation qui arrive à la fin du XIIIe siècle. Le sujet a été beaucoup discuté et il devient un sujet légitime. Enfin, il est devenu petit à petit, au fil des discussions, un sujet légitime, avec des arguments qui reviennent beaucoup. Donc, c'est vrai qu'il y a une forme de, je dirais pas d'épuisement, mais vraiment de standardisation qui entraîne un effet de réemploi au XIVe siècle. C'est-à-dire, dans certains textes au XIVe siècle reprennent en fait des discussions précédentes et les réarrangent d'une autre manière. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est un nouveau stade. Mais on a quand même encore pas mal d'auteurs qui discutent de fascination au XIVe et au début du XVe siècle. On ne peut pas dire que ce soit un arrêt complet des débats.
Et à la fin du XIVe siècle, justement, donc le 19 septembre 1398, la faculté de théologie de l'Université de Paris prononce une détermination officielle, donc une détermination, dans laquelle sont condamnés 28 articles relatifs à la magie et à la divination. Quelle est la raison de ce durcissement de la position de l'Église? Et est-ce que justement ce durcissement ne rend pas difficile les débats?
Alors oui, c'est aussi ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que les débats changent, se transforment, non seulement par le réemploi, mais aussi par un changement d'enjeu. Un enjeu autour de la magie au XIVe siècle, et ensuite au XVe siècle, un enjeu autour de la sorcellerie. La magie d'abord, alors la condamnation de 1398, c'est un acte important dans l'histoire de la condamnation de la magie, mais il n'est pas du tout question de fascination dans ce texte. Donc la magie devient de plus en plus une sorte de tension grandissante autour de la magie à partir du début du XIVe siècle. Il y a des affaires politiques liées à la magie. Le pape Jean XXII qui intervient régulièrement pour insister sur l'interprétation démoniaque de la magie, pour la condamner. Mais la fascination passe un peu à côté, puisqu'elle n'est pas condamnée parmi les pratiques magiques qui sont condamnées à cette époque. Deuxième étape, deuxième durcissement en quelque sorte, c'est la montée de la chasse aux sorcières. Ça, c'est un moment qui commence surtout à la fin du XIVe siècle. La répression de la sorcellerie commence vraiment à partir de 1375 et après. Et il s'accompagne d'un nouvel imaginaire, ce qu'on appelle l'imaginaire du sabbat, donc l'idée que les sorciers se réunissent en réunion qui s'appelle le sabbat pour aller adorer le diable. Cet imaginaire se développe surtout au XVe siècle, après les années 1420. Et c'est une nouvelle transformation de nouveau des enjeux qui changent, et cette fois qui ont un effet sur les discussions sur la fascination. Je le montre notamment en étudiant un théologien qui s'appelle Pierre Mamoris, qui écrit dans les années 1460, qui est inquisiteur, mais qui s'intéresse aussi à la magie, aux phénomènes naturels de façon très large. Et il reprend un auteur d'un siècle précédent, Gerald Hott, qui discutait de la fascination en évoquant l'interprétation naturelle d'Avicenne. Pierre Mamoris le reprend, mais on voit bien le durcissement de temps et le changement des enjeux, parce que finalement, il ne peut pas aller jusqu'au bout comme le faisait son prédécesseur un siècle auparavant. Il propose, il développe l'idée d'Avicenne, l'interprétation naturaliste de la fascination, puis finalement, il revient en arrière avec l'idée qu'à cette date-là, donc au XVe siècle, avec l'ambiance des procès de sorcellerie, de l'imaginaire du sabbat, il n'est plus possible de vraiment soutenir qu'un regard peut avoir un effet naturel et non démoniaque.
Oui, parce que les procès de sorcellerie, donc 15e, 16e siècle, sont évidemment un événement majeur, mais on voit dans la période qui nous intéresse, 13e, 15e siècle, qu'il n'y a pas de procès contre des fascinateurs. Donc ça veut dire que ça reste un objet de discussion, mais finalement ne représente pas un trouble à l'ordre public.
Oui, tout à fait. La fascination, et ça c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué et découvert en lisant ces textes, c'est qu'elle est absente des textes qui condamnent la magie et la sorcellerie, au 13e, au 14e et au 15e siècle. Les évêques, les théologiens, les inquisiteurs qui sont engagés d'abord dans la lutte contre la magie, puis dans la lutte contre la sorcellerie, mais surtout dans la lutte contre la magie, ne se préoccupent pas du mauvais œil. Ça ne les intéresse pas plus que ça. Ce qui les inquiète, ce sont les pratiques apparentées à la magie démoniaque ou ensuite au sabbat des sorcières. Le mauvais œil reste relativement neutre de ce point de vue-là. Et alors, pour expliquer cette absence, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'une magie savante, le mauvais œil. Ce qui est visé par les inquisiteurs, par le pape Jean XXII au début du XIVe siècle, c'est la magie savante, la magie rituelle, celle qui théorise l'intervention des démons et qui cherche à maîtriser l'intervention des démons par des pratiques magiques. Le mauvais œil se situe à un autre niveau, beaucoup plus rudimentaire. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une magie qui ne se pratique pas, qui se repère dans l'après-coup, qui fait l'objet de pratiques de protection, mais pas vraiment d'une théorisation. Ce n'est pas une magie savante. Donc pour les auteurs, les inquisiteurs et les théologiens, c'est une magie qui reste vraiment relativement inoffensive.
Et comment justement, vous venez de l'évoquer, comment est-ce qu'on se protège du mauvais œil à cette période, au Moyen-Âge? Et puis, une fois qu'on est touché, comment on en guérit? Est-ce que des médecins se sont penchés sur le sujet à l'époque?
Alors, on sait aujourd'hui, dans les études anthropologiques sur le mauvais œil, qu'il existe beaucoup de rituels, à la fois pour se protéger et pour s'en guérir. Et comme le mauvais œil lui-même ne fait pas l'objet d'une pratique, c'est là que se trouvent les pratiques de mauvais œil, dans la protection, dans la guérison. Par exemple, il existe dans d'autres périodes que le Moyen-Âge, des images protectrices, le corail, le pendentif en corail dont je parlais tout à l'heure, des amulettes, des images en forme de phallus, des manophiques à des gestes. Tout ça sont des formules à réciter aussi. Ça, ce sont des choses qu'on connaît par ailleurs dans d'autres domaines qui sont bien connus pour se protéger du mauvais œil. Mais dans les sources médiévales, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas du tout trouvé de traces de ces pratiques. Ou lorsque on trouve, par exemple, un objet en corail, on ne sait pas si c'est pour le mauvais œil ou pour autre chose. Donc, je ne peux pas vous dire comment on se protégeait contre le mauvais œil au Moyen-Âge. Et de fait, les médecins s'intéressent à la doctrine d'Avicenne, mais ils restent très prudents. Ils s'intéressent au pouvoir de l'âme, au pouvoir de l'âme sur le corps, plutôt qu'au pouvoir de l'âme en dehors du corps. Donc, à la première partie de la doctrine d'Avicenne sur l'imagination. Mais ils ne s'intéressent pas tellement à la fascination, encore moins aux manières de guérir la fascination, les médecins médiévaux. C'est seulement à la fin du XVe, au XVIe siècle, que petit à petit, on se rend compte que le mauvais œil est devenu un objet médical légitime. Au XVIe siècle, on a des traités médicaux sur le mauvais œil, alors que ce n'est pas du tout ce qu'on trouve dans les textes médiévaux. Lorsque les médecins s'intéressent à Avicenne, c'est vraiment pour discuter à un niveau doctrinal. Et même ce qui m'a frappé dans les textes médicaux, c'est surtout un auteur médecin du début du XVe siècle, Jacques de Forlì, qui utilise la doctrine d'Avicenne comme support d'enseignement. Il ne dit pas s'il est d'accord ou pas avec cette idée d'un pouvoir de l'âme en dehors du corps, mais il fait un cours qui est dans la version éditée énorme, c'est 60 pages de cours, dans lequel il propose des arguments pour, contre, en rebondissant sur les arguments, des objections, résolution des objections à la manière scolastique. Donc la doctrine d'Avicenne soulève des enjeux importants pour des médecins comme celui-ci, mais l'enjeu n'est pas de savoir comment guérir le mauvais œil.
Et d'ailleurs, c'est vrai que dans la plupart des écrits, vous montrez bien que les auteurs commencent souvent leurs textes en reprenant l'état des connaissances à l'époque, puis les discutent d'une manière simplement logique, et c'est parfois très difficile de savoir ce qu'ils en pensent. Et un autre point que j'ai relevé aussi, c'est que finalement, cette tradition, cette croyance du mauvais œil, elle a persisté non seulement pendant les 3 siècles de votre étude, mais quasiment jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que vous expliquez que cette croyance persiste encore aujourd'hui, alors qu'elle ne repose que sur des discussions théoriques ?
Il y a des discussions théoriques et il y a la pratique derrière, même si elle n'est pas accessible, elle reste là. Donc c'est cette interaction en fait qui fait que la croyance dans le mauvais œil persiste. C'est vrai qu'on ne sait pas du tout s'ils y croient ou pas, et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas leur problème en fait. Ce qui les intéresse, c'est vraiment d'expliquer le monde qui les entoure, d'expliquer le monde naturel. C'est plutôt pour ça. Moi, ce qui m'a étonnée en fait dans les textes, c'est pas la persistance de la croyance, parce qu'on connaît par les études d'anthropologie que le fait que le mauvais œil existe vraiment dans des parties du monde très diverses, à des périodes très diverses. C'est pas ça qui m'a étonnée. Ce qui m'a étonnée, c'était l'ampleur des débats intellectuels savants. Ça, c'est quelque chose qui est propre à la période médiévale, qui sera peut-être découvert dans d'autres périodes par des chercheurs dans les années à venir. Mais de fait, jusqu'à maintenant, ce n'était pas connu. Et le Moyen-Âge, pour ça, a cette spécificité d'être le moment où on a discuté, où le mauvais œil est devenu un objet légitime pour des intellectuels. Ça, c'est le plus étonnant pour moi, plutôt que la persistance de la croyance.
Et pour terminer, alors est-ce que vous avez un bijou, un talisman pour vous protéger du mauvais œil ? Est-ce que vous y croyez ?
Alors, le rapport avec un objet de recherche, c'est toujours un peu compliqué. Plutôt, en général, on travaille sur quelque chose à la fois qui nous intéresse, mais dans lequel on ne croit pas vraiment. Donc, je ne pourrais pas dire que je crois dans le mauvais œil, mais en même temps, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, cette question du pouvoir du regard. Et par ailleurs, j'aime beaucoup les objets de protection qu'on trouve contre le mauvais œil. Donc j'en ai un, effectivement, chez moi, que j'ai ramené de Grèce, qui est un gros œil et un autre petit œil bleu. Je voulais l'amener pour vous le montrer.
Ah oui, bah je viens. Et d'ailleurs, là, vous l'avez ramené de Grèce, c'est une croyance qu'on retrouve partout dans le monde.
Oui, on le retrouve beaucoup en Grèce. Si vous voulez vous ramener un œil de protection contre le mauvais œil, il faut aller en Grèce. Mmh. Vous trouvez des petits yeux bleus, comme celui-ci. Mmh. Et ça, c'est, je trouve ça très joli. Donc voilà, il y a un historien qui a travailler sur le mauvais œil, un historien, un de mes collègues qui m'avait raconté qu'en travaillant sur le mauvais œil, il lui était arrivé des tas de catastrophes et que par conséquent, il valait mieux se protéger en travaillant.
On finit par rentrer dans son sujet, en fait, c'est ça ?
C'est ça, avec quand même un petit peu de distance. Mais bon, ces objets sont très jolis de toute façon.
Merci beaucoup, Béatrice de Laurenti, pour cet entretien.
Merci, Hassan.
Je rappelle le titre de votre livre, « Mauvais œil, une histoire médiévale ». C'est aux éditions du Cerf, c'est déjà disponible en librairie. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Merci.
Merci.